Interview.
10 pour l'interview que vous écoutez en 107.5 sur les ondes FM ou alors aussi sur l'émission mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au téléphone aujourd'hui, nous sommes avec Laurence Petit. Bonjour.
Bonjour.
Laurence Petit, vous êtes membre du comité de soutien de Vincenzo Vecchi, donc une actualité mise au jour par rapport à ses démarches et ses périples judiciaires. Et à côté de vous, vous avez aussi Jean-Baptiste, également membre, qui s'exprimera durant l'émission. Bonjour Jean-Baptiste.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour. Tous deux, vous êtes ici pour nous parler de dernières données et les dernières actualités concernant les procès sans suite de Vincenzo Vecchi, qu'il supporte depuis plusieurs années.
En réalité, la prochaine étape dans cette marathon, c'est le fait le 26 janvier. On attend la décision du tribunal de cassation de Paris. Voilà, ça c'est la prochaine étape. Allô?
Oui, je vous entends.
D'accord. Ça c'est la prochaine étape, donc le 26 janvier. C'est une marathon parce qu'en réalité, ça fait un an et demi qu'on est sur la brèche, qu'on est sur cette histoire de Vincenzo. Ça veut dire que ça a démarré le mois d'août 2019. Voilà, 2019. On a du mal à réactualiser, mais c'est ça. Et donc, petit à petit, on est arrivé, c'est la deuxième fois qu'on passe à la cassation. Et donc, là, on attend la décision du tribunal. Parce qu'en réalité, il y a eu déjà deux tribunaux, donc Rennes et Angers, qui nous ont donné un avis qui était favorable pour nous. Donc, ils ont dit que le mandat d'arrêt européen contre Vincenzo ne pouvait pas être exécuté, pour deux raisons différentes. Mais déjà, Rennes, le procureur a fait appel, donc on est passé en cassation. Et là, Angers rebellote, ça veut dire qu'Angers nous donne raison sur le fond. Et le procureur a fait appel à la cassation. Nous donne raison sur le fond parce qu'en réalité, Vincenzo a été condamné à une lourde peine, 12 ans et demi, pour avoir participé à la manifestation des jeunes du 20 juillet 2001. Donc ça fait presque 20 ans, donc les temps ils sont vraiment très très longs. Et il a été condamné à 12 ans et demi en vertu d'une loi d'origine fasciste, donc approuvée pendant le régime fasciste, de dévastation et saccage. Ça veut dire que c'est une loi qui permet de condamner quelqu'un par la simple présence dans une manifestation dans laquelle il peut y avoir de la casse ou des affrontements. Voilà. Donc, on attend le 26 pour voir si enfin la Cour de cassation accepte le fait que deux autres cours nous ont déjà donné raison. Donc voilà, on est dans l'attente. On est dans l'attente avec espoir et inquiétude, parce que justement d'un point de vue juridique, on a raison, dans le sens que même à la Cour de cassation de Paris, le procureur nous donne raison. La rapporteuse de la Cour de cassation nous donne raison en disant que effectivement il n'y a pas de proportionnalité des peines. Hein. C'est un peu compliqué, mais en réalité c'est pas si compliqué que ça. Ça veut dire que on est en train de construire un espace juridique européen petit à petit, et le fer de lance de cet espace juridique européen, c'est le mandat d'arrêt européen. C'est un début. Or, ce mandat d'arrêt européen et cet espace juridique européen, comment on va le construire? C'est ça qui est intéressant. Ça, on va le construire en mettant ensemble les différentes lois qui sont dans les différents pays européens. Et ça, c'est un réel danger parce que dans différents pays, aujourd'hui, on a des lois carrément liberticides, que ce soit dans le droit de manifester, que ce soit aussi dans tous les attaques, par exemple, au droit à l'avortement, au droit des femmes, qui est dans différents pays, comme la Pologne, par exemple. Est-ce qu'on va accepter toutes ces lois liberticides-là dans l'espace juridique européen, ou, et c'est ça le truc intéressant, Est-ce que cet espace juridique européen, on va le construire sur la base des droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne? Et justement, tout le débat, il est là, parce que la proportionnalité de la peine, en réalité, fait partie des droits fondamentaux de l'Union européenne, donc l'article 49.3, et c'est sur ça qu'il doit statuer la Cour de cassation de Paris. Donc voilà, est-ce qu'on va rester retranché dans notre frontière ou est-ce qu'on va élargir, on va construire enfin un espace européen en basant sur les droits fondamentaux. Voilà, ça c'est le débat et c'est une inquiétude parce qu'aujourd'hui les temps un peu partout ne sont pas très bons. Hein. Les lois liberticides, il y en a un peu partout. L'attaque au droit de manifester, c'est un peu général un peu partout. Donc voilà, on est dans cette histoire et cette contradiction-là.
On peut préciser un peu l'histoire du mandat d'arrêt européen. Est-ce que vous vous êtes penché un peu sur cette historique de quelle année date sa création dans le principe?
La création, ça me semble, c'était 2002.
Ouais, voilà. 2002,
ça veut dire qu'à un moment donné, on est en train de construire l'Europe. Voilà, on peut être d'accord, pas d'accord, mais de fait, on est en train de la construire. Le problème, c'est le fait, on va la construire sur quelle base, comment, avec quelle avancée, reculade. C'est ça le problème. Nous, on constate simplement que cette construction-là, elle est un acte. Et elle est un acte aussi d'un point de vue juridique. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour construire cette entité, pour le moment un peu floue qu'est l'Europe, comment on va homogénéiser, si tu veux, comment on va créer cet espace juridique européen commun. Voilà, c'est ça le truc de fond. Et donc, le début de la création de cet espace juridique européen, c'est le mandat d'arrêt européen. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire qu'il y aura un espace unique, justement l'espace européen, dans lequel il y aura des équivalences de délits dans les différents pays. Et donc, pratiquement, le mandat d'arrêt européen, il a été mis en place pour remplacer l'extradition qu'il y avait avant. Voilà. Ça veut dire qu'on ne peut plus discuter, on ne peut plus critiquer, par exemple, ce que l'Espagne ou l'Italie ou la Belgique fait d'un point de vue des condamnations ou des recherches, effectivement, des gens qui ont été condamnés ou qui doivent être condamnés. Mais pour construire ça, il doit y avoir une équivalence, il doit y avoir une similitude entre les droits dans des différents pays. Or, pour construire cette similitude-là, c'est ça le problème de fond. Comment on fait? On a une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et c'est sur cette charte-là qui est reconnue par tous les pays qui ont adhéré à l'Union européenne. C'est sur cette charte-là qu'on doit construire cet espace juridique européen. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines lois, par exemple, comme en Italie, par exemple, que c'est des lois d'origine fasciste, elles ne peuvent pas rentrer, elles ne doivent pas rentrer dans cet espace juridique européen-là. C'est ça le problème de fond, il est là. Ça veut dire, pour construire quelque chose de nouveau, on est obligé, on doit se défaire de certaines situations qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Voilà. Mais en même temps, on est en train de construire cet espace juridique européen, oui, mais en même temps, dans cet espace-là, de plus en plus de lois liberticides, comme en France par exemple, la loi par exemple sur les groupements dangereux, l'article 24, etc., etc., on a de plus en plus de lois liberticides. Liberticides, ça veut dire que c'est des lois dans lesquelles le pouvoir du juge et le pouvoir du procureur est illimité. Et donc, ça pose en réalité, le problème de Vincenzo pose un problème de fond, ça veut dire l'accès à la justice. Voilà. Comment aujourd'hui, en France, en Europe, comment on peut accéder à la justice? Parce que je reviens au discours de tout à l'heure, ça fait un an et demi qu'on est sur le mandat d'arrêt européen de Vincenzo. Or, des mandats d'art européen, c'est quasiment automatique. Un mandat d'art européen, ça dure quelques jours, quelques semaines. Et après, soit il est exécuté, soit il n'est pas exécuté. Soit il y a une équivalence, disons, soit il n'y a pas d'équivalence. Et là, ça fait un an et demi, ça fait un an et demi en réalité, que les différents procureurs essayent de retarder ou essayent d'empêcher effectivement le fait que ce mandat d'arrêt européen-là ne correspond pas à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc voilà, c'est en réalité l'histoire de Vincenzo, elle est passionnante, disons d'un point de vue intellectuel. Nous, elle est passionnante, on est complètement dedans parce que Vincenzo, c'est un ami, c'est un copain, et donc on est complètement là-dedans. Mais en même temps, si effectivement nous tous on s'est mis dans cette histoire-là, c'est parce qu'on s'est reconnu immédiatement dans l'histoire de Vincenzo. Ça veut dire que aujourd'hui, même en France, Vincenzo, c'est qui? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, le mois de juillet 2001, décide d'aller à Gênes manifester contre le G8. Voilà, pour un autre monde possible, etc. Voilà. Il sort de chez lui, il prend le train, il va à Gênes, et à un moment donné, il se retrouve dans une manifestation dans laquelle il y a eu pas mal de casses. Il y a eu un manifestant qui est tué par les carabiniers, il y a eu des actes de torture, il y a eu un usage disproportionné de la force de la part de la police, etc., etc. Et dans lesquels il y a eu pas mal d'affrontements. Or, quand aujourd'hui on sort de chez nous pour aller à une manifestation, on peut s'attendre au fait qu'il peut y avoir des dégâts. On peut se retrouver mêlé à ça et on dit, bon, à la limite, je risque quelques mois de prison. Mais j'ai envie de manifester, j'y vais. Or, Vincenzo, il va à cette manifestation-là, et à un moment donné, il se retrouve 6 mois après, pas tout de suite, parce qu'il n'a pas été arrêté tout de suite, il se retrouve avec une inculpation, et justement, pour être condamné, ils vont ressortir une vieille loi fasciste qui n'a jamais été appliquée en Italie depuis 75 ans, et il est condamné à 12 ans et demi. Donc, c'est le droit de manifester même qu'aujourd'hui il est mis en avant pour cette histoire-là. Ça veut dire, imaginons que par exemple quelqu'un, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent par exemple, qui ont participé aux différentes manifestations, par exemple les manifestations des Gilets jaunes, hein, on sort de chez nous pour aller à une manifestation et on se retrouve avec 10, 12 ans au pire, on va en rêve parti. Et on risque de se retrouver avec 10 ans sur le dos. C'est des peines tellement disproportionnées, tellement absurdes, tellement délirantes, qui posent le problème même des droits fondamentaux, justement, que le droit de manifester, qui aujourd'hui est en danger.
Voilà, et effectivement, on a eu beaucoup d'émissions sur l'histoire de Vincenzo. Par ailleurs, je voulais savoir, la composition du comité de soutien tend à peut-être à chacun de se spécialiser dans un domaine précis, Laurence Petit ?
Non, ce qui s'est passé en fait, c'est que quand Vincenzo a été arrêté le 8 août 2019, hein, ça fait un an et demi, c'est quand même complètement fou cette histoire, on s'est tout de suite mobilisé, dès les premières heures de son arrestation, on s'est mobilisé parce que c'était un ami, parce que c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup, qui était proche de nous, avec lequel on faisait plein d'activités, il y a beaucoup d'activités associatives sur le territoire. Et donc immédiatement, on ne savait pas son passé italien, on n'avait jamais parlé de ça avec lui, il n'en avait pas parlé, mais immédiatement, il nous a paru indispensable de se mobiliser et de l'accompagner dans ce qui lui arrivait. Donc on a trouvé des avocats, on a fouillé un petit peu dans les différents documents auxquels on a pu avoir accès, etc., pour mettre un peu cette machine infernale, machine judiciaire infernale, la mettre en brèche et arriver à lutter. Parce que si on n'avait pas bougé, si le comité d'action de soutien de Vincenzo ne s'était pas constitué, n'avait pas bougé, Vincenzo aurait été renvoyé en Italie très rapidement, dans les semaines qui ont suivi son arrestation. Donc c'est vraiment l'action du comité qui a permis d'entraver cette situation. Et là, je dirais que chacun d'entre nous a fait appel à ses compétences, à ses relations, à ses connaissances de tel ou tel domaine, etc. certains d'entre nous ont dit, bah, écoutez, moi j'ai quelques notions juridiques, je vais les mettre au service du comité. D'autres avaient des relations avec la presse, ils se sont complètement jetés dans l'aventure. D'autres connaissaient bien le domaine de la radio et se sont lancés là-dedans. Toutes les compétences, tous les savoir-faire, toutes les bonnes volontés ont été suscitées, se sont mis au travail. Et ça continue, un an et demi après, on est toujours là. Hein, on est toujours là à se battre. Et je dirais que même si on est inquiet aujourd'hui, parce qu'on attend cette décision du 26 janvier avec inquiétude, en se demandant est-ce qu'on va enfin sortir de cette situation, est-ce que l'acharnement des procureurs contre Vincenzo va enfin se tarir, va enfin trouver son issue. Malgré tout, on sait aussi qu'en un an et demi, on a réussi énormément de choses. On a avancé ce dossier. On a prouvé point par point les différentes erreurs, les différents délires qui avaient été mis en bref. Enfin, par exemple, quand Vincenzo a été arrêté en août 2019, il était arrêté sous le coup de deux mandats d'arrêt européens, l'un pour Gênes, 2001, et l'autre pour Milan, 2006. Or, celui, l'arrestation sous le mandat d'arrêt européen de Milan, 2006, s'est révélé assez rapidement, ça veut dire quand même presque deux mois, s'est révélé être un faux, être un mensonge de la part de la justice italienne. Ça n'avait pas lieu d'être. L'inculpation pour ce mandat d'arrêt européen pour Vincenzo, en fait, parlait d'une peine qui avait déjà dit, qui était une petite peine, enfin une petite peine, c'est toujours beaucoup, hein, il avait fait un an de prison pour ça, pour avoir participé à une manifestation antifasciste, et cette peine avait été intégralement purgée et reconnue comme telle en 2009. Et pourtant l'Italie, en mentant de manière parfaitement consciente, avait mis en place ce mandat d'arrêt européen et avait fait comme si il était justifié, comme s'il courait toujours, ce qui n'était pas le cas. Donc c'est le comité de soutien qui a creusé un petit peu cette situation et qui a mis à jour ce qu'on pourrait appeler cette manœuvre mensongère de la part de la justice italienne et qui a fait reculer les choses à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros boulot à ce niveau-là, mais c'était quand même assez fou parce que je me souviens que on avait demandé, la justice française avait demandé à l'Italie de se justifier au niveau de ce mandat d'arrêt européen concernant Milan. Et la justice italienne a répondu en disant « Ah oui, c'est vrai, on savait parfaitement que c'était qu'il était nul et non avenu, ce mandat d'arrêt. On l'a mis quand même pour que vous sachiez un petit peu qui était le bonhomme et qu'effectivement, il avait déjà participé à d'autres manifestations. » Mais on croit rêver. Si la justice française n'avait pas eu affaire au comité de soutien qui a creusé, qui a amené ce mensonge à la surface, etc., ça veut dire qu'il aurait été renvoyé en Italie pour une fausse inculpation. On croit rêver. Voilà.
Et c'est
le travail du comité de soutien.
Oui. Oui. Et au sein de votre comité, vous avez certainement accès au droit européen par certains documents ou certains sites. Comment vous vous documentez sur la justice européenne ?
Alors, on bosse beaucoup, Il y en a certains d'entre nous qui se sont spécialisés dans ce travail.
Je voulais préciser ma question. Est-ce qu'il vous semble aisé d'accéder à la documentation de la justice européenne ?
Oui, je comprends bien effectivement votre question. Non, ça n'est pas aisé du tout. Et ce qui est certain, c'est que nous, on a bénéficié du fait que certains d'entre nous avaient déjà quelques connaissances dans le domaine. Il se trouve que l'une des membres du comité est une ancienne magistrate. Donc, bien sûr, ça facilite les choses. Mais même avec tout ça, ça reste extrêmement compliqué. Ce sont des méandres juridiques extrêmement complexes. Et il est bien évident qu'un citoyen lambda qui n'a pas un comité de soutien derrière lui, comme c'est le cas, qui n'a pas les moyens financiers, parce qu'il y a eu aussi un coût, cette affaire a un coût absolument délirant, qu'un citoyen lambda ne pourrait absolument pas assumer. Donc c'est très compliqué, c'est très coûteux, c'est très long, et c'est pas désespérant, parce qu'on a vraiment décidé de ne pas désespérer et de s'accrocher, mais ça pourrait l'être sinon.
La dernière fois, c'était environ mi-décembre, on s'était déjà enregistré une émission. Est-ce que depuis, entre-temps, il y a eu des nouveautés ?
Les nouveautés, c'est qu'il y a eu la fameuse cassation, puisque je me souviens bien effectivement d'avoir parlé avec vous au début décembre 2020. La nouveauté, ça a été la cassation. La grande surprise de la cassation, qui sur le moment a été une surprise plutôt rassurante, plutôt enthousiasmante, c'est que, et la rapporteuse, c'est-à-dire l'une des juges, hein, ils étaient 12 juges, ce qui est énorme, en cassation, arrivaient à avoir un jury de 12 membres, de 12 juges, c'est énorme, ils ont vraiment mis le paquet, on pourrait dire. Et la rapporteuse de ce groupe de 12 juges et l'avocat général ont tous deux donné raison à la défense de Vincenzo, en disant qu'effectivement il y avait un certain nombre d'erreurs de la part de l'Italie, qu'il y avait des mensonges de la part de l'Italie, qu'il n'y avait pas de proportionnalité, qu'il n'y avait pas ceci, qu'il n'y avait pas cela, que l'avocat, le procureur d'Angers qui s'était pourvu en cassation n'aurait pas dû le faire, en tout cas il n'aurait pas dû le faire avec les arguments qu'il avait donnés parce que ces arguments étaient fallacieux. Il y a même, je cite, hein, l'avocat général qui a dit « ça n'est pas digne de la Cour de la cassation ». Alors, effectivement, oui, ça nous fait plaisir, parce qu'on se dit, bon, ben, on ne s'est pas battu en vain. Ils reconnaissent que l'affaire n'est pas juste, hein, du point de vue de la façon dont les procureurs se comportent. Malgré tout, ça fait peur. Ça fait peur, parce que ce résultat qu'on attend pour le 26 janvier, on est habitué maintenant, depuis un an et demi, à avoir des douches froides, hein, régulièrement, et à ce que les espoirs qu'on peut avoir dans la justice soient à nouveau réduits à zéro. Donc oui, on a peur, oui.
La dernière question pour aujourd'hui, mis à part la procédure engagée, quelles sont les motivations des procureurs dans le fond ?
Ben, nous, on suppose que c'est politique et que finalement, il y a une...
Est-ce que je veux dire, mais est-ce qu'il y a une trace écrite de cette motivation à persister, à poursuivre Vincenzo Vecchio ?
Je pense qu'il y a un excellent article d'Éric Vuillard qui a été publié dans l'Obs, justement, sur le rôle des procureurs aujourd'hui en Italie. En France. Le problème de fond, par exemple, vis-à-vis du procureur d'Angers, c'est qu'il avait essayé de monter une espèce de bande organisée pour justifier le fait de renvoyer en Italie. Or, le comité, il a produit en disant « j'ai les preuves parce qu'il y a eu une réunion, etc., dans laquelle tout a été planifié ». Or, le comité a produit la vidéo de cette soi-disant réunion de planification dans laquelle c'était absolument pas une réunion de planification. Donc là aussi, on est allé chercher loin les preuves pour démontrer effectivement que c'était n'importe quoi. Mais sur le fond, c'est le rôle du procureur lui-même en France qui a été épinglé plusieurs fois par la Cour de justice européenne, en disant qu'aujourd'hui, le rôle du procureur, ben, le procureur, il a tous les moyens. Vous voyez, par exemple, le procureur de la Cour de cassation, en ce moment, il est dans son bureau. Il est dans son bureau avec ses secrétaires, avec son chauffeur, avec son salaire garanti, et il a strictement rien à cirer, par exemple, de tous les moyens que nous on met en œuvre pour effectivement contrer ses agirs. Ça veut dire que le pouvoir du procureur aujourd'hui, en France, il est illimité. Il est illimité en termes de moyens et il est illimité d'un point de vue de soif de gagner. Ça veut dire qu'à un moment donné, le procureur aujourd'hui en France n'est plus là comme garant de la loi, mais il est simplement le courroie de transmission vis-à-vis de son ministère. Et donc, son rôle aujourd'hui, c'est un rôle pernicieux, vicieux, dans lequel les moyens aujourd'hui en France entre un procureur, l'accusation et la défense, on n'est pas à égalité d'armes. Ça veut dire que, effectivement, le procureur, il a tous les moyens, y compris la maîtrise du temps. Et nous, on subit, effectivement, le bon vouloir du procureur. Pourquoi il faut aller jusqu'au bout ? Mais simplement parce qu'il veut trouver les moyens de gagner à tout prix.
Oui.
Et justement, le problème des fonds, c'est à tout prix, ça veut dire à quel prix.
D'accord. Et Laurence Petit, vous pouvez m'indiquer, ou nous indiquer plutôt, s'il y a des cas similaires en France que celui de Vincenzo ?
Alors justement, il faut avoir bien en tête que la décision que prendra la Cour de cassation le 26 janvier, va faire jurisprudence, car le cas de Vincenzo est totalement inédit. Il n'y a jamais eu jusqu'à aujourd'hui de cas de mandat d'arrêt européen qui donne lieu à une procédure aussi complexe, aussi longue, aussi, je dirais, renouvelée, avec cette espèce d'acharnement qu'on a pu dénoncer à plusieurs reprises. C'est parfaitement inédit. Ça n'a jamais eu lieu jusqu'à maintenant.
Eh bien, Laurence Petit et Jean-Baptiste, je vous remercie tous deux de nous avoir donné un peu de temps sur la suite de ce qui se produit pour Vincenzo Vecchi en attendant le délibéré du 26 janvier. Oui. J'imagine qu'on se retrouvera au-delà de cette date, assez prochainement d'ailleurs, pour en connaître la suite et peut-être même espérer le point final.
On espère le point final, oui.
Et merci surtout à vous. Parce que pendant cette aventure, on s'est rendu compte le rôle essentiel, effectivement, des radios comme la vôtre. Parce que si aujourd'hui on arrive à faire passer certains messages, si on arrive à dialoguer, si on arrive effectivement à faire avancer les choses, c'est parce qu'il y a encore des radios sur lesquelles on peut s'exprimer. Voilà. Donc, merci.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.